Est-ce qu'on reprend le directeur est là ou pas? Et où est le directeur?
Le directeur est là.
Ah bon. Ah, le directeur est là. Bon, donc nous allons reprendre pour cette première matinée en écoutant Pierre Ouellet. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir et qui n'ont pas pu l'entendre se présenter lui-même, je rappellerai que Pierre Ouellet est écrivain, il est romancier, poète, essayiste. Il est professeur de littérature à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire d'esthétique et de poétique du Canada. Pierre accompagne en compagnonnage vraiment la littérature française contemporaine. Il a organisé un nombre de colloques assez importants ces 10 dernières années qui soit invité des auteurs contemporains, dont Antoine à plusieurs reprises, soit invité des chercheurs plus ou moins reconnus. Hein. Il a lancé quelques-uns d'entre nous, je pense à Frédéric et à moi, sur les colloques internationaux. Et donc aujourd'hui, il va nous présenter une poétique de l'être contre. Deux points, portrait en négatif de la communauté post-exotique. Est-ce que c'est toujours ton titre?
Oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui.
Alors, voilà.
Évidemment, j'aurais pu, un peu dans la foulée des trois belles communications de ce matin, vous faire un peu l'historique du post-exotisme au Québec et dans le reste du Canada. Hein, depuis la naissance de Manuela Draguer à Chicoutimi, on ne sait plus trop en quelle année, sans doute il y a très longtemps, bien qu'elle soit très jeune. 71. Voilà. Jusqu'aux nombreuses invitations qu'on a pu lancer à Antoine depuis une dizaine d'années, soit dans le cadre de séminaires, de colloques ou de lectures et d'événements littéraires de tout genre, en passant par les nombreux cours qui ont été donnés, soit partiellement ou entièrement, sur l'œuvre d'Antoine, et les mémoires, les thèses, les articles, les conférences, les livres qui ont été publiés au Québec. Mais j'ai choisi d'aborder de manière peut-être un peu plus surplombante cette notion de communauté post-exotique, un peu dans la foulée des belles réflexions de Frédéric, en m'appuyant bien sûr beaucoup sur cette notion de communauté dont on a dit beaucoup de choses depuis une vingtaine d'années, mais que je vais essayer d'un peu renouveler à travers l'œuvre d'Antoine, et bien sûr en tenant compte aussi de cette expression post-exotisme sur laquelle tu t'es arrêté longuement tantôt, Frédéric. Et comme, bien sûr, vous savez, les mots lecture, leçon, légende, découlent tous du verbe latin legere, qui veut dire assembler, rassembler, des morceaux épars, comme ça, en une communauté de signes, une collection de symboles, je vais me servir un peu de ce genre littéraire particulier au post-exotisme pour rythmer, pour ponctuer un peu ma réflexion, qui va se développer en 7 leçons. Voilà. Pourquoi 7, hein? Et je vais, si vous me le permettez, pour éviter toute digression, toute incise auquel j'ai l'habitude et qui peut-être me ferait déborder de mon temps de parole, je vais lire le texte que j'ai préparé pour cette rencontre. Alors, celui qui parle, pense, vit, agit dans le monde post-exotique est toujours l'un d'entre nous, écrit Antoine Volodine. Il n'est pas toujours parmi nous, puisque les membres d'une telle communauté sont le plus souvent dispersés, déportés, victimes d'une diaspora ou d'un internement qui empêche tout contact direct, in presentia, toute communication de personne à personne, qui doit toujours passer par les mille et un détours de la parole, de l'écriture, de la mémoire, des rêves, bref, d'un legs qui se transmet de bouche à oreille, de souffle en souffle, d'âme à âme, bien plus que de main en main, comme c'est le cas du témoin dans les courses à relais, où les protagonistes se touchent, se frôlent, alors qu'ici, le tact, qui n'est jamais contact, a la subtilité d'une sorte de courant d'air circulant entre les êtres. À propos de Linda Wo, écrivain post-exotiste, héroïne du Discours aux nomades et aux morts publié dans Écrivain, que vous allez pouvoir lire cet automne, et auteur de récits empruntés à une autre narratrice, Maria Higasel, ancienne co-détenue ayant perdu la vie, dont elle prend la voix et épouse l'esprit, qui lui souffle alors les mots comme si c'était l'âme même de celle-ci qui était transmise, on peut lire ceci. Quand elle a façonné une histoire, elle la chuchote de nombreuses fois, en s'accroupissant et en s'allongeant devant la porte. Elle s'adresse au couloir, au courant d'air qui souffle dans l'étage vide. Elle aime s'adosser au mur en imaginant qu'elle traverse le mur, qu'elle est dépeignée par le vent, au milieu des herbes mouvantes, et qu'elle parle plus fort que les souffles. Le couloir envahi par les vents coulis est la seule et unique voie de communication avec les nomades et les morts, les douloureux absents, seul vrai public de la parole exotique. Sinon avec les co-détenus, dispersés ici et là, chacun dans sa cellule, chacun dans sa solitude, au fond des étages vides où porte le souffle plus fort que les vents, expulsés par les poumons de l'écrivain, dont on dit qu'il n'existe que par sa respiration, en tant que poumon avec conscience, poumon bavard, comme il est écrit dans Écrivain, où on lit aussi, toujours à propos de Lindau, que c'est le vent qui lui arrache les mots de la bouche, et que, l'écoutant, on ne sait plus trop ce qu'on entend. Du vent sous le ciel infini, ou un courant d'air dans l'étage vide. Si l'on peut dire que l'auteur post-exotiste, qui est toujours entre nous, n'est pas nécessairement parmi nous, sinon sous l'espèce subtile d'un souffle, on peut aussi affirmer qu'il n'est pas obligatoirement avec nous, puisque les membres d'une telle communauté sont loin d'être unanimes. Ils vivent d'insolubles tensions et contradictions, malgré une solidarité de fond qui les relie ou les rallie, sans les uniformiser jamais, en une seule et même voix ou une pensée unique. Un tel ralliement a lieu contre quelqu'un ou quelque chose, plutôt qu'avec qui que ce soit. On est solidaire par opposition à telle ou telle chose ou personne, bien plus que par identification à une seule et même cause ou idée. Cette solidarité n'a d'ailleurs rien de solide. Elle se défait et se refait au fil des trahisons, des conversions, des mille et une métempsychoses que vivent les membres d'un tel collectif, composé de transfuges, d'agents doubles, triples, de dissidents, de déserteurs de tous les camps. Car chacun est de son propre camp, qui se révèle bientôt le camp de tous, celui des solitaires, des esseulés, des isolés. Ils vivent dans un tel isolement, au milieu des steppes, ou au cœur des lieux de détention et des quartiers de haute sécurité, qu'on se demande si cette solitude n'est pas le seul véritable trait qu'ils partagent au sein de leur communauté. Une solidarité des solitaires, comme à Port-Royal, ou dans les cloîtres les plus reculés. Un réseau infini d'érémitiques qui habitent chacun sa grotte, sa tour, son coin de désert. Une société secrète de troglodytes ou de stylites, reliés entre eux par la prière, le nara, le romance, l'entrevoûte ou la leçon, le haïku, le slogan ou les vociférations. Au-delà de la vie commune, une fois écrasés et condamnés, nous dit Lindau, les écrivains du post-exotisme s'obstinent à exister encore, dans l'isolement des quartiers de haute sécurité ou dans la clôture monacale définitive de la mort, dit-elle. Quartier de haute sécurité et clôture monacale de la mort qui semble un seul et même lieu, la cellule élémentaire d'où l'écriture surgit. Le souffle jaillit, où l'âme survit, permettant ainsi la perpétuation de l'ensemble vide qu'est la communauté post-exotiste, armée secrète de cénobites, dont l'unique arme est l'âme, terrible, violente, mortelle, qui les habite et les traverse de part en part comme s'ils incarnaient dans leur corps tubulaire ou leur chair pulmonaire les couloirs de la mort où soufflent les courants d'air d'un condamné à l'autre, de solitaire en solitaire, qui les captent dans tous leurs membres telles des antennes vivantes, de sorte que Lindau, parlant ou récitant, s'imagine, écrit Volodine, qu'elle a les bras en croix pour mieux sentir le vent de la steppe, l'esprit des morts ou des survivants, des nomades sympathiques, ou sympathisants, pardon, et des errants entourés de bandages, tout juste évadés des fours de l'enfer, ou des corbeaux noirs habités par des chamans, ajoute Volodine, qui représentent son unique public, en même temps que sa seule source d'inspiration. Leçon 1. Union libre, union sacrée. Rien ne soude un tel ensemble, ni le sang, ni le sol. Pas de langue commune, pas d'ethnie, pas de territoire. De vagues croyances partagées, mais pas de religion, ni de foi unique. Des amours, des amitiés, mais pas de fratrie, ni de clan, de secte ou de tribu, sinon fantasmées, comme pur objet de réminiscence, appartenant à un passé si lointain qu'il se perd dans la nuit des temps, comme chacun se fond dans la foule des esselés. Ce n'est jamais une masse, hein, ni même un peuple, et encore moins la populace. La communauté post-exotique n'a rien d'un agrégat, ou d'un amas, d'un tas. Au contraire, pour que l'air passe d'un membre à l'autre, pour que la parole circule comme le sang, la vie, le souffle, de solitude en solitude, il faut qu'il y ait du vide. La steppe, ou la lagune, l'espace, le temps, bref, l'étendue. Sinon le rêve, le fantasme, la fiction, qui sont du néant à leur façon, buée de buée, vanité des vanités. Rien ne s'amasse ou ne se ramasse dans un tel monde de masse nulle, qui ne pèse pas plus qu'une âme, un mot, une simple haleine. La communauté post-exotiste n'a pas de consistance, pas plus qu'elle n'a de vraie constance. Son trait le plus saillant étant l'inarrêtable métempsychose dans laquelle elle s'est engagée depuis sa naissance, comme en un tunnel ou un espace noir, un bardeau sans bornes, qu'elle traverse et qui en disperse les éléments comme autant d'électrons libres, de masses négatives, gravitant autour d'un vide ou d'un trou noir dans lequel ils risquent à tout moment de se précipiter. Chaque membre de cette communauté, loin de s'agglomérer en grosses molécules sociales ou nationales, de nature identitaire, comme c'est le cas des regroupements communautaires, se précipite au contraire en particules insaisissables, en corpuscules aux trajectoires étranges, qu'aucun champ de force n'enferme ni ne contraint, pas même ce qu'on appelle les camps de travail ou de concentration, car ils n'habitent l'espace-temps qu'en le trouant, par la mémoire, le rêve, la parole, l'image, y creusant de larges vides où ils se jettent dans tous les sens, ne survivant dans les lieux clos qu'en se défenestrant par les meurtrières, les barbacanes, les vasistas, les puits de lumière qu'ils y pratiquent au sein de la méditation ou de la divination, de la prière et de la profération. L'écrivain post-exotiste invente des rêves, reprend des histoires, peut-on lire dans « Écrivain », où l'on réfléchit à nos combats, à ceux que nous avons menés en habit de guerrier et à ceux que nous avons menés en habit de prisonnier, et que nous continuons de mener avec de la parole, des souffles, des hallucinations. Fait de la citation. Bref, avec de la littérature. Cet air, ce vent, qui perce les murs, fend le temps et fait tomber l'histoire, tout comme ces lignes dans l'espace qu'on appelle frontières, ou celles entre soi et l'autre, qui nous ségrèguent, nous discriminent, nous hiérarchisent. On connaît le leitmotiv volodinien. Quand je dis « je », ce n'est pas moi qui parle ou dont je parle, mais tel ou tel, peut-être tous. Bref, quiconque ou, plus justement, tout un chacun. Tout un chacun, voilà une étrange expression qu'utilisait déjà Kant pour parler du sentiment esthétique, hein, que chacun vit singulièrement, mais de manière universelle, puisque tous peuvent le vivre similairement. L'auteur post-exotiste est l'un d'entre nous parce que sa solitude de fond, grâce à laquelle s'exprime sa singularité, crée les conditions symboliques d'une solidarité universelle dans le sentiment commun, éprouvé par chacun, que ces paroles et ces images nous concernent tous, qu'elles sont le fait d'une commune humanité, d'une animalité plus large que l'espèce en fait, puisqu'elles sont l'expression du vivant lui-même, l'incarnation du souffle, la manifestation de l'anima ou de l'air vital autour duquel on ne cesse de tourner, comme autant d'électrons fous autour du vide qui nous attire, du mystère qui nous aimante. Leçon 2. Sacre et massacre. Communauté de la mort et de la naissance, de la mémoire et du rêve, de l'image et du langage, de l'espace et du temps, du vivant et du survivant, bien plus que des hommes et des femmes, des personnes et des choses, des sujets et des objets, le collectif d'écriture qui sous-tend l'univers post-exotiste ne peut se définir de manière positive. Ce n'est pas une communauté ethnique, nationale, linguistique, territoriale ou idéologique, mais l'émanation tardive, peut-être terminale, d'un cum munus, primitif ou originaire, tout entier fondé, comme son sens étymologique l'indique, sur ce qui lui manque ou lui fait défaut, qu'elle a dès lors pour devoir ou pour mission de rechercher autant dans le passé le plus lointain que dans l'avenir le plus incertain, ou dont elle a reçu le don et la grâce de célébrer l'absence, hein, sinon la présence en creux, dans des mots et des images où elle en éprouve à la fois le désir et le deuil, sous la forme d'un nouveau sacre, celui d'un homo sacer que son bannissement béni, Élie, consacre. Les auteurs, narrateurs et personnages post-exotiques sont à la fois en mission et en état de grâce, en devoir et en manque, dans l'obligeance et dans le besoin, dans l'abstinence et dans la munificence, tout entier don d'eux-mêmes offrande propitiatoire, holocauste ou kamikaze. Le premier mot, d'origine grecque, signifiant brûler complètement, consumer, partir en fumée, et le deuxième, japonais bien sûr, voulant dire vent divin, air saint, souffle sacré. Voilà le portrait des porte-paroles post-exotistes, des cendres emportées par des courants d'air secrets, des particules de fumée noire transportées dans le vent sacré. Ce sont des émissaires, des commissaires, des commissionnaires, porteurs d'un message, d'un missus, dit le latin, dont le caractère rituel, plus qu'idéal, fait qu'il devient une sorte de messe au sens premier du terme, une missa, c'est-à-dire un office, une action de grâce, un sacrifice. Missus, missa, missio, découle du verbe mitere qui veut dire envoyer, comme on envoie Hermès ou Mercure, porter au loin quelques missives, mais aussi écrire, dire, narrer, rapporter, donc témoigner. Non pas en étant simplement le véhicule de la parole, le support ou le suppôt hermétique du dire, la voie ou le canal mercurial du témoignage, mais également, comme le dit le sens propre du verbe mitere, en s'y jetant, en s'y lançant, s'y précipitant corps et âme dans cette missio ou cette missa, dans cette cérémonie du don de la parole qu'on fait ou qu'on reçoit, en se laissant aller ou en s'abandonnant complètement à cette émission ou transmission qui assure la survie de l'espèce dans le sacrifice de soi ou le fer sacré d'un jeu transmué en tout un chacun, devenu un entre tous. Homo sacer au sens strict, auquel on rend grâce en rejetant tout recours en grâce qu'il pourrait souhaiter, qu'on auréole de la grâce même qu'on ne cesse de lui refuser. Le témoin est un envoyé du ciel et de la terre, des vivants du passé comme des morts à venir, de l'Éden et de l'Hadès, du Béréchit ou de l'Apocalypse, chargé non tant d'un vague message que d'une faute, sinon d'un crime commis en commun, par tout un chacun ou l'un d'entre nous, qu'il a pour mission de racheter sous la forme d'un sacrifice verbal, narra, romance, vociférations ou bien leçon, cette missa ou cet acte de parole qui n'a peut-être ni influence ni force, écrit Volodine, mais qui n'en a pas moins son efficience. Tant que nous disposerons d'un peu de souffle, dit-il aussi, nous inventerons encore et encore la magie absurde de cette parole, nous irons dans les mots et nous dirons le monde. La troisième leçon d'écrivain s'intitule « Commencer », mais avec un A et un seul M. Non seulement parce que l'auteur post-exotiste dont elle parle, cette leçon, est un enfant, quasi analphabète, qui ne maîtrise que peu la syntaxe et l'orthographe, mais aussi et surtout parce que le verbe « commencer », « cum initiare », « initier ensemble », a précisément à voir avec la magie, ou la mancie, du grec « manteia », qui a donné les mots « cartomancie », »,« chiromancie », etc., et qui renvoie au rite initiatique de la divination, ou de la prédiction, que pratiquent les écrivains post-exotiques, qui témoignent de l'après, de l'avenir, du survenir, bien plus à mon sens que de l'avant, du passé ou de leurs souvenirs. Ils augurent et inaugurent bien davantage qu'ils ne mémorisent et commémorent. Aucun monument, aucun document qui puisse servir d'archive sur lesquels édifier une quelconque histoire, mais des paroles en l'air, des souffles dans le vent, des cendres dispersées, des braises envolées, qui font qu'on ne peut parler de preuves, s'appuyant sur des faits avérés, mais de traces plus ou moins effacées, puis ravivées, qui ressemblent aux restes diurnes dans le travail du rêve ou aux réminiscences qui hantent la fiction, bien davantage qu'aux indices recueillis par les enquêteurs et chroniqueurs de toutes sortes dans leur nostalgie du seul passé. Les auteurs post-exotistes, eux, sont nostalgiques d'un futur qui n'est jamais advenu et n'adviendra sans doute jamais, sinon sous la forme de prophéties et de divinations que la parole dont ils se font le relais porte depuis toujours, leur mission la plus secrète ou la plus sacrée étant de la transmettre jusque dans les temps les plus lointains, où les écrivains enfants, quasi aphasiques, comme celui de commencer, rejoignent les grands-mères multicentenaires qui savent compter les commencements perpétuels, dans une boucle du temps qui échappe à toute histoire, comme à toute distinction entre présent à venir et passé à revenir. Leçon 3, le don du souffle. Le mot latin « munus », qui a donné le mot « communauté », est l'un de ces termes à sens contraire ou opposé jadis étudié par Benveniste, comme le mot « hôte », celui qu'on invite et celui qui reçoit. mais aussi l'autel où l'on accueille et l'hostilité par laquelle on rejette, de même que l'hostie, symbole du sacrifice où l'on jette quelque chose, mais pour rendre grâce. Le mot mounous, en effet, désigne d'une part la charge, le devoir, l'office public, et d'autre part la grâce, les faveurs, les bienfaits, soit le don, le présent, l'offrande qu'on fait ou bien reçoit, qui tantôt gratifie, tantôt sacrifie. L'expression muneri mitere veut dire envoyer quelque chose en cadeau, en présent, mais aussi jeter ou abandonner quelque chose en sacrifice, en oblation, en aumône. La mission ou la commission du héros post-exotiste, dans le cum munus primitif qu'il ressuscite, en chacune de ses paroles ou de ses actions, sera précisément d'endosser le munus en sa duplicité, sa double face, sa terrifiante ambiguïté. La missa et le missus qu'il porte relèvent en effet d'un devoir et d'une faveur indémêlables, d'une grâce et d'une responsabilité qu'on ne peut séparer, d'un legs dont on reçoit le cadeau en même temps qu'on en prend la charge. Le munus, propre à la communauté post-exotique, relève tout entier d'une économie du change perpétuel, hein, plutôt que de l'échange réglé ou institué. On se prend les uns pour les autres en une interminable métempsychose, où quand on dit « je », on parle de X ou de Y, sinon de tous, bref, de tout un chacun, plutôt qu'on se prend et se reprend les uns les autres en un commerce où chacun devient une marchandise à posséder, un objet à conquérir, un bien à thésauriser. Un tel munus est « mutus hein. ». Tout se donne et se reçoit à charge de revanche, dans la mutualité symbolique du don et du contre-don, qu'un Marcel Mauss ou un Claude Lévi-Strauss ont jadis interrogé sous le nom de eau ou de mana, dont on a parlé tantôt. Ce double esprit qui fait du monde non une donnée, hein, c'est-à-dire un ensemble d'objets à disposition qu'on peut conquérir et s'approprier, mais une donation sans fin, une chaîne de cadeaux, d'offrandes, de présents dont l'homme n'est qu'un maillon, sans doute le plus faible, qui fait qu'il reste perpétuellement en dette et doit sans cesse offrir des sacrifices pour être à la hauteur de cette dation, de cet héritage qu'est le réel, à la fois nourricier et mortifère, où il naît et meurt sans jamais rompre la courroie de transmission de la toute première mission qu'il a reçue en recevant la vie. De là surgit le sens du commun, hein, le munus passant de l'immunus, c'est-à-dire de l'immunitaire, cette défense ou cette protection contre l'ennemi ou l'adversaire, au cum munus, c'est-à-dire le communitaire, l'aller-retour, le va-et-vient, le flux et le reflux entre l'ici et l'ailleurs, le soi et l'autre, le passé et le futur, la mémoire et le rêve, le don et le contre-don. Ce monde communitaire se reflète dans le mot français « revanche », qui le décrit avec force et précision, eu égard au monde post-exotique où rendre l'appareil revient souvent à reprendre le déçu, à obtenir compensation, ou en tout cas, a donné toute sa place au sein de la communauté au principe de la contrepartie. L'un des mots les plus récurrents du post-exotisme est celui de représailles. Hein, reprendre ce qu'on nous a pris, comme on redonne ce qu'on nous a donné. Assassiner les assassins, voilà une mission qui s'inscrit dans la pure réciprocité, propre au munus comme au mana, où la logique du don est respectée à la lettre comme dans son esprit. Donner la mort ou donner la vie relevant de la même exigence, qui consiste à ne pas garder pour soi ce qu'on a de plus précieux, la haine ou bien l'amour, qu'on doit rendre littéralement, que cela détruise ou crée. Tout doit passer, de souffle en souffle, comme de main en main, même la violence ou la véhémence qui réduit tout à rien, élevant le rien au rang d'un tout. Leçon 4. Le dernier testament. Le collectif d'écriture post-exotiste est une communauté purement testamentaire ou testimoniale que rien ne cimente, donc, sinon le souffle rare, passant de génération en génération de narrateurs ou de témoins, qui ne conservent rien pour leurs propres héritiers que l'âme hors d'haleine qui traverse ou transgresse les frontières du temps et de l'espace, des âges et des lieux, de la paix et de la guerre, du désir et de la colère, pour créer une réserve mémorielle ou onirique de mythes et de rites, d'images et de paroles, de narras et de romances, d'entrevues et de leçons, dont nous hériterons nous aussi, nous, hein, lecteurs sympathisants, subtilement cooptés par l'univers post-exotique, qui se situe après l'ailleurs, comme dit l'expression, précisément parce qu'il est tout entier ici, dans ce qui suit la chute du mur entre l'histoire et la fiction, le réel et le rêve, le présent et le passé, l'univers où je suis, moi, lisant, comme Volodine écrivant, Et celui où sont, lisant et écrivant également, les Lutz Bassmann, les Manuela Drager, comme les Mathias Holban, les Linda Wo ou les Marie 313, qui peuplent les pages des ouvrages post-exotistes, tels écrivains, où les personnages deviennent eux-mêmes auteurs, pouvant dès lors écrire la vie de celui qui leur a donné naissance, tout comme les hommes, depuis tout temps, écrivent celle de leur Dieu, à qui ils doivent pourtant la vie, hein, si on en croit leurs fictions les plus communes ou leurs mythes de fondation les plus profonds. Le principe de réversibilité ou de réciprocité qui régit la communauté post-exotique va jusque-là. Beaucoup plus loin donc que les formes éculées d'égalitarisme que ses membres continuent de défendre sans grande conviction. Tu m'écris, je t'écris. Tu m'engendres, je t'engendre. Puisqu'on se donne mutuellement naissance et éventuellement la mort, dans ce communus où tout est partagé, la fiction et le réel, le passé et le présent, l'ailleurs et l'ici, non pas comme s'il s'agissait de choses ou de biens, hein, de propriétés bien définies, mais comme le souffle unique d'où l'on vient et où l'on va, seul apte à traverser toutes les frontières du temps et de l'espace, y compris celles qui séparent l'imaginaire et la réalité, le singulier et l'universel, soi-même et les autres, de sorte que le monde post-exotique est un univers en expansion, dont nous faisons virtuellement partie. Dès lors que nous entrons en relation avec ceux qui l'habitent, dont nous devenons complices, dans la mesure où l'on ne peut rester indifférent à un tel monde qui exige qu'on le prenne en charge immédiatement, qu'on en hérite, comme du munus lui-même, dette et grâce, don et devoir, missio, missus et missa réunis. Leçon 5, la chute du mur. Le tout un chacun porté par le témoignage post-exotiste ne peut se concrétiser que par l'effondrement du double mur qui sépare, d'une part, monde réel et monde fictionnel, et d'autre part, personnage et narrateur d'un côté et auteur et lecteur de l'autre. Une convention littéraire et un présupposé ontologique nous conduisent à dresser une frontière étanche, hein, entre l'univers intradiégétique d'une œuvre, où vivent les narrateurs et les héros, et son univers extradiégétique, qu'habitent son auteur et ses lecteurs, à des moments et dans des lieux donnés du monde réel, hein, qui peuvent être contemporains ou coextensifs, comme c'est le cas de l'auteur et des lecteurs de l'œuvre volodinienne qui sont réunis ici, mais qui peuvent aussi être séparés par une grande distance dans le temps et dans l'espace, de telle sorte que l'univers extra-diégétique de l'œuvre peut devenir lui-même une sorte de fiction, hein, comme c'est le cas du monde où aurait vécu Homère, hein, pseudo-Homère en fait, ou encore l'univers de ses doubles, de ses avatars, les aèdes et les récitants, pour nous tout aussi mythiques que le contenu intra-diégétique de l'Iliade et de l'Odyssée, qui paraissait pourtant bien réel aux yeux et aux oreilles des Grecs de l'Antiquité. On peut lire dans Écrivain, toujours à propos de Linda Wo, véritable transfuge de la fiction au réel et inversement, elle prend la voix de Maria Higacel. Soudain, elle est Maria Higacel. Moi aussi. Moi aussi. Volodine lui-même, dans Écrivain, qui en est l'auteur, ou le narrateur du discours aux nomades et aux morts, hein, qui est l'une des leçons qui compose l'ouvrage. Et pourquoi pas moi également, hein, qui lis ces lignes et me les approprie, les mettant dans ma voix, les assumant au point d'en faire l'un des éléments de la réalité de l'œuvre que je suis en train de parcourir, croyant à ce que je vois, entends, ressens, comme si j'y étais, entrant dans cette fiction sans pourtant sortir du monde réel, comme les peuples chamaniques vivent dans leur monde le plus quotidien, avec les fictions les plus invraisemblables, mythes, légendes, fétiches, telles ces poupées de débris, de bouts de bois ou de chiffons que Coriline façonne dans la dernière leçon d'écrivain pour se donner un public auquel il croit davantage qu'aux lecteurs supposés réels, qui sont aussi des marionnettes. Si la frontière entre le mort et le vif, déjà franchie par les Dibukin, hein, et autres morts vivants produits par l'histoire du dernier siècle, on peut penser aux musulmans évoqués par Agamben, dont l'univers post-exotiste semble peuplé comme autant de spectres, de mânes ou de fantômes, si cette frontière, donc, est définitivement tombée, comme le mur qui sépare le présent, le passé et l'avenir, ou encore l'ici, le là-bas et l'ailleurs, transmutant les lieux en espace noir et transgressant les âges vers une ère sans origine ni fin, il est tout à fait logique que toute démarcation entre les mondes internes et externes à l'œuvre finisse par s'estomper, puis s'effacer. Lutz Bassmann et Emmanuel Adreger sont définitivement sortis des bornes de l'univers intradiégétique, où il semblait enfermé. Puisqu'il signe désormais des communiqués de presse communs, à côté d'Antoine Volodine, dans le monde réel, extradiégétique, de la littérature contemporaine. Et de la même façon, les lecteurs sympathisants, qu'ils soient nomades, errants, chamans ou corbeaux, font désormais partie de l'univers intradiégétique du post-exotisme, même s'ils habitent le monde dit réel, extérieur à l'œuvre. C'est sans doute l'une des choses les plus incomprises et les plus critiquées par l'institution littéraire et médiatique, on l'a évoqué tantôt. Cette complicité, hein, cette sympathie ou cette empathie des lecteurs du post-exotisme qui ne se contentent pas de lire, mais écrivent aussi, souvent, hein, prenant en charge le legs qu'on leur laisse, le témoin qu'on leur passe, pour le transférer à d'autres mains. On parle de manière injurieuse de critiques d'identification, d'effets de secte, de phagocytage du discours interprétatif par le texte interprété, bref, d'une abdication de soi devant le grand autre que représente l'auteur, censé manipuler ses nombreux lecteurs comme Nikita Kourilin ou Gordon Koum font de leurs marionnettes ou de leurs poupées de débris. Un parasitage et une ventriloquie qui ferait qu'on ne parle que dans les mots que l'auteur nous met dans la bouche, dont on se nourrirait ou se gaverait sans aucune autonomie, qu'on avalerait sans réfléchir. N'en est rien, bien sûr, si l'on en juge par les fortes personnalités des auteurs-lecteurs réunis ici, qui pratiquent moins la supposée critique d'identification, hein, qu'ils n'éprouvent une vive ou une véritable crise d'altération devant l'univers volodinien, où personne ne s'exprime en son propre nom. Volodine lui-même, parlant au nom de Linda Wo, qui parle au nom de Maria Igacel, qui elle-même parlait au nom de nombre d'entre nous, comme il est dit à plusieurs reprises dans l'écrivain. La littérature post-exotiste ne s'exprime pas en son propre nom, parce que les noms propres, hein, y compris ceux de ses auteurs, ne sont que des fictions, au même titre que les œuvres elles-mêmes, mais des fictions réelles, hein, qui fonctionnent dans la réalité, autant que dans les rêves et la réminiscence, avec la même efficience, la même efficacité. Leçon 6, à la même auge. Dans le communiqué de presse que j'ai déjà cité, qui a pour titre « À nos lecteurs », le collectif d'auteurs post-exotistes formé par Bassmann, Dreger, Cranauer et Volodine écrit d'une seule et même voix qu'après 25 ans de publication sous le seul nom de ce dernier, la question de la signature s'est posée. Qui est l'auteur quand l'histoire est racontée par des personnages incarcérés à l'extérieur de l'histoire? De l'histoire racontée, bien sûr, c'est-à-dire de l'univers intradiégétique de l'œuvre, mais aussi de l'histoire tout court, hein, qui a désormais son propre dehors, son propre après, hein, son post- et son ex-autisme, où vivent les créatures volodiniennes, comme si exister hors du récit revenait pour elles à exister hors du temps historique, dans un no man's land ou un no man's time que nous partageons avec elles, nous, lecteurs sympathisants ou pas, qui sommes littéralement projetés dans la fiction de réel désormais dépassée par lui-même. Les auteurs post-exotistes demandent alors « Qui est l'auteur quand celui dont le nom figure sur la couverture ne fait que rassembler des images et des récits élaborés par une communauté d'écrivains ?» Et que ces bribes d'images et de récits, pourrions-nous ajouter, sont les morceaux d'une histoire défaite, hein, les lambeaux d'une humanité déchue, où l'on reconnaît notre propre monde effiloché, notre réelle mise à mal, d'où sont censés parler, enfermés dans quelques camps clandestins ou quelques cellules secrètes, vestiges des ghettos et des goulags du dernier siècle, les auteurs et narrateurs post-exotistes, qui sont toujours l'un d'entre nous, mangeant à la même auge ou au même râtelier que tout un chacun, mordant dans le même pain sec. Deux réponses à cette double question. L'œuvre n'appartient plus à un unique passeur, comme on peut lire dans le communiqué en question, et les prisonniers écrivains acquièrent une stature concrète. Ils existent avec autant de force dans la fiction que dans le monde éditorial où ils peuvent publier des livres, peut-on lire dans le même communiqué. Nous ajouterons dans le monde post-historique ou ex-poétique aussi, hein, ce monde d'après le temps et d'en dehors du texte où nous vivons nous-mêmes, lecteurs sympathisants, critiques empathiques, devenus moines errants, guerriers nomades, oiseaux chamans. Il est temps aujourd'hui, précisent nos auteurs, de reconnaître le droit à l'existence de voix aussi originales que celles d'Eli Cronauer, de Manuela Dreger et de Lutz Bassmann, qui survivent à ce qu'ils écrivent, surpassent ce qu'il raconte. Comme la réalité de notre temps dépasse la fiction, et comme on croit en l'existence d'Orphée, d'Édée, d'Ulysse ou d'Énée, comme d'Hamlet ou de Don Quichotte, de Bloom et de Bardane. Nous les rencontrons, nous les avons rencontrés, et nous sommes ici pour parler de cette rencontre, pour vivre à nouveau ce croisement de voix et de regards qui n'a pas de fin parce qu'il ne repose pas sur l'échange au sens strict, hein, dont c'est qu'il finit par s'épuiser, les idées comme les biens matériels ne pouvant que manquer. Mais sur le change perpétuel, sur la métamorphose ou la métempsychose, où nous réincarnons les uns dans les autres, comme les porte-paroles post-exotistes nous invitent à le faire. Ils ne sont pas tant des prête-noms, puisque nous ne nous contentons pas de leur emprunter leur identité, nous leur prenons aussi leur vie, que des donne-voix, des donne-souffles, qui donnent la respiration non pas artificielle mais surnaturelle à ceux qui en ont un urgent besoin, comme nous, lecteurs sympathisants, dans ce monde où l'air se raréfie et l'âme s'étiole, à une vitesse telle que la fiction seule, qui vit au rythme accéléré de la mémoire et du rêve, entre injonction, invocation, incantation, peut venir en aide au réel lui-même, en voie d'extinction, et porter secours à ce qui reste d'une histoire dont l'après et le dehors, hein, le post et l'ex, forment l'unique asile ou la seule maison de repos où le temps humain peut espérer refaire ses forces. Le sanatorium d'images et de mots où la communauté des hominiens garde l'espoir de se régénérer, même si elle doit passer pour cela par le règne des araignées, la nuée de corbeaux, le troupeau d'éléphants fous. Le camp retranché ou la retraite forcée à jamais campé dans la mémoire et dans l'imaginaire, de nature testimoniale ou testamentaire, où l'on prend soin du passé le plus lointain pour mieux le transmettre au futur le plus éloigné, dans le but d'exorciser le présent hanté par sa seule actualité, incapable qu'il est de donner libre cours aux virtualités et aux potentialités que la fiction ne cesse d'y injecter, tel un sérum ou un soluté qui ne fait que recracher. Leçon 7, avec ce qui est contre. Le post-exotisme nous prend à témoin d'un autre monde plutôt qu'il nous prend en otage de ses romances, de ses chagas, de ses narras. Il nous donne à nous, lecteurs sympathisants ou pas, le même privilège qu'à Lutz Bassmann et à Manuela Dreyer, soit le droit inaliénable à l'existence. À la coexistence, en fait, avec tous les êtres post-exotiques que nous rencontrons, dans ce monde ou dans d'autres, ces hybrides mi-réels, mi-fictionnels, mi-chair, mi-verbe, qui sont toujours l'un d'entre nous, comme nous sommes tous l'un d'entre eux, au sein du tout un chacun, que le communus post-exotiste tente de fonder en réinventant le socius, non seulement dans la fiction, mais aussi dans la magie du souffle qui atteint et contamine notre monde le plus quotidien, celui où chaque matin, les corbeaux chamans viennent manger dans notre main. Merci.
Merci Pierre, c'était comme toujours magnifique et peut-être on a senti ce que tu voulais dire tout à l'heure quand tu disais ce que l'œuvre produit sur notre discours. Bon, je dirais qu'il est à la fois une poétique de l'espace, une poétique des figures et une philologie renouvelée. C'est peut-être aussi ce qu'a produit sur ton propre discours critique l'œuvre d'Antoine Vouledine. Je voudrais peut-être simplement faire une précision parce que je ne sais pas si ça a été tout à fait clair pour tout le monde, que tu as surtout évoqué le livre qui s'appelle Écrivain, qui paraîtra sous le nom d'Antoine Vouledine à la rentrée prochaine, en même temps que deux autres livres, un livre de Bassmann et un livre de Manuela Dreyer. Et par ailleurs, tu as évoqué un texte à nos lecteurs qui accompagnera cette parution triple sous la forme d'un petit livret hein, avec un discours des éditeurs, un discours des auteurs. Et c'est là que Bernard Comand a eu l'idée de cette expression « un auteur » avec « auteur » au pluriel.
Voilà, comme les premiers livres d'Antoine étaient des livres d'anticipation qui sont parus dans la présence du futur, je me suis dit, je vais aussi anticiper sur la rentrée d'automne.
C'est excellent.
Je vais parler de livres qui n'existent pas encore. Et, voilà.
Et comme Bruno parlera de Bassmann, je ne t'en vais pas d'avoir privilégié Vouledine.
Il faut dire qu'Écrivain est peut-être un livre comme Post-exotisme en 10 leçons, qui va marquer un peu la réception hein, du post-exotisme dans la mesure où il y a beaucoup de métatextes, hein, de texte sur le texte. Alors, je pense que c'était important d'en parler aujourd'hui. Sinon.
Et dont vous aurez des extraits ce soir, puisque je crois, Antoine, tu reprendras en partie le découpage qui a été proposé. proposé pour la lecture avec Dominique Pinon. Non, pas du tout, d'accord. Bon. Ok. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Pierre ou faire un premier commentaire?
Oui. Jean-Pierre Vidal, c'est moi qui ouvre le bal décidément ce matin.
C'est le premier rang.
J'ai été frappé par tout ce qu'il pouvait y avoir dans ton discours et de la façon dont tu analysais magnifiquement l'œuvre, de quelque chose de volontairement contradictoire et d'assumé. Hein, une espèce d'oxymoron structurel, disons. Le fait, par exemple, qu'on ait l'impression, et je crois que c'est une très bonne définition de ce qu'est la littérature, d'un espèce de vent, de grand discours qui circule tout seul, et que parfois, certains d'entre nous, nous tous, occupons. Donc, on occupe une place qui est une place de vent. Et on est traversé par une place de vent. Et c'est ça, en quelque sorte, qui fait parler. Et c'est ça qui fait de la littérature. Et il y a quelque chose de contradictoire là-dedans, mais ça me paraît effectivement un des points importants dans l'œuvre de Volodine. Et ça, je dirais que ça me venge un petit peu de Genette. J'ai toujours été frappé, moi, de... Il y a une note qui me fascine dans Genette, à un moment où il dit « Il y a une vue de Rouen, dans Madame Bovary, dont on ne sait pas qui la voit ». J'ai toujours trouvé ça absurde, moi, comme remarque, hein, parce que ça me paraissait être justement une remarque antilittéraire par excellence. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais...
Oui, ben, je réhabilite de toute façon la notion d'inspiration, qui est une manière de respirer, finalement, d'un à l'autre, hein, de passer le souffle. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'inspiration dans l'œuvre d'Antoine, puisque chaque écrivain s'inspire d'un écrivain précédent. Et beaucoup d'expiration aussi, puisqu'on est toujours un peu à bout de souffle, hein, et que quelque chose est en train de s'éteindre. Donc il est souvent question, finalement, de cet animus ou anima, appelons-le comme on voudra, mais ce principe hein, du pneuma hein, grec, hein, de la pneumatologie, fait que finalement on transmet moins un message, un sens, que quelque chose comme un air, un souffle, hein, qui nous inspire et qu'on expire. Et finalement, le passage de témoin dont je parlais tantôt, parce qu'il s'agit pour moi d'une littérature testimoniale hein, et testamentaire, c'est ça, cette circulation d'air, hein, ce tunnel, ce couloir où les vents coulissent s'introduisent et atteignent chacun de ces solitaires, hein, qui sont co-détenus, ou de ces morts, de ces nomades dont on parle aussi. Hein, le public de Lindelöf, par exemple, ce sont des nomades, des morts, survivants, hein, c'est pour ça que j'évoquais la notion de Dibukim, et des corbeaux chamans. Hein, donc, vous voyez, ce sont à chaque fois des entités qui renvoient un peu à cette idée de quelque chose qui est à bout de souffle, mais qui, malgré tout, se trouve réinspiré, ressurgi au sens vraiment de la résurrection, hein, quelque chose qui reprend vie, qui est ranimé tout à coup. Donc on est dans une littérature de la réanimation, hein, de la réanimation, si je peux dire. Donc propice à toutes ces métaphores que j'ai filées comme ça, de l'âme au souffle en passant par le vin. Mais il faut dire que l'ambiguïté que tu soulevais dans la première partie de ton intervention, c'est-à-dire cet oxymoron, vient du terme même munus. Je vous ai épargné ici, bien sûr, les références en bas de page, mais il faudrait lire le très beau livre de Roberto Esposito, hein, Communitas, dont je me suis largement inspiré. Et qui fait l'histoire
d'être réédité chez
vous,
Pré-Raison.
D'accord, parce que c'était paru dans une collection maintenant disparue. Ouais, et donc, il montre bien que dans l'histoire des langues indo-européennes, ce mot munus est fondamentalement ambigu, hein, parce que c'est à la fois le don, le cadeau, l'offrande, mais en même temps aussi la dette, le devoir, etc. Et il mène une très, très belle réflexion. Accompagné par, bien sûr, Bataille, Blanchot, et puis, bien sûr, aussi Nancy, indirectement, sur l'idée de sacrifice, qui est un peu peut-être le terme synthétique qui permettrait d'unifier à la fois ces deux sens opposés du mot « munus ». Vous voyez, contrairement à ce qu'on le dit ou on le pense souvent, le mot « commun » ou « communauté » ne vient pas de « comme unus ». Ça n'a rien à voir avec l'unité, mais comme munus, c'est quelque chose de beaucoup plus ambigu, et ce qui fait que, bon, par exemple, on peut donner la mort et donner la vie en respectant d'une certaine manière cette logique du munus, hein, c'est quelque chose qu'on partage aussi, la mortalité, hein, la finitude, autant que le don de vie ou le don, le souffle vivant. Donc il y a dans toute l'œuvre post-exotique cette espèce d'équivalent général, hein, de tout ce qui relève à la fois du mortel, de ce qui relève du natal, et de l'origine et de la fin aussi bien, et qui se trouve là engagé dans cette notion de communauté post-exotique.
Frédéric,
ah, pardon. Oui, moi, je voulais revenir justement sur deux points de ce que vous posez, comme une suggestion de réflexion, de prolongement à ce que tu disais. Sur ce souffle qui passe, cette parole qui traverse d'un locuteur à un autre sans qu'on sache forcément. Qui est ce locuteur, qui peut être tout un chacun, comme tu disais. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé dans le parcours de Benjamin, avec une première époque où il était très sous influence du romantisme sur lequel il avait fait sa thèse, et où qui lui faisait dire au début du texte sur le traducteur, sur celui qui est intitulé en français La tâche du traducteur, qu'en aucun cas la figure du lecteur n'était importante pour la connaissance d'une œuvre. Et après cette première époque de la critique, de la pensée de Benjamin, il y a une deuxième époque dans les années 30, celui où il écrit le narrateur, notamment, où au contraire, il va questionner la notion d'expérience et où il va réhabiliter cette idée d'une circulation où on doit transmettre une expérience et de l'un à l'autre, et que et où on voit comment est réinscrite la figure du lecteur là, comme celui à qui on transmet quelque chose et qui doit à son tour la récupérer comme une expérience d'importance. Et ce cheminement dans l'œuvre de Benjamin me paraît important dans cette réintroduction de la figure du lecteur et avec ce que Mandelstam à peu près à la même époque, un peu auparavant, mais qui va être repris par Celan, appelle la bouteille à la mer, et qui est marqué aussi par l'histoire. Hein, évidemment, le moment où Benjamin commence à penser cette réflexion à réinscrire la figure du lecteur sur cette notion de transmission, c'est un moment où l'histoire commence à être cruelle dans les années 30. Il me semble que, pour finir cette digression, que ça a à voir aussi avec la figure du témoin dont tu parlais, mais que tu employais avec un sens quasi transhistorique, alors que moi justement j'aurais tendance quand même à réinscrire cette figure du témoin au XXe siècle dans son rapport à l'histoire catastrophique du XXe siècle, étant donné que la notion de témoignage la prend vraiment. Une signification témoignage de crimes collectifs de masse.
Écoute, merci de ton commentaire. Effectivement, ce texte de Benjamin est extrêmement important. On aurait dû d'ailleurs le traduire par le conteur, parce que si tu te rappelles, Benjamin oppose l'âge du conte à l'âge du roman. L'âge du conte, c'est celui où on a un narrateur. Une narration collective, finalement, parce que le conteur emprunte le contenu de son récit à tout un ensemble de générations plus ou moins anonymes, d'ancêtres, de prédécesseurs. Et en plus, il adresse sa parole à une communauté vivante qui est coprésente à son acte d'énonciation. Le conteur, c'est le conteur oral, qui parle donc à un public qui est là, qui fait partie. Autrement dit, il n'y a pas cette séparation entre l'extra-diégétique et l'intra-diégétique. Le monde du conte est un monde anonyme, comme la communauté post-exotiste l'est d'une certaine manière, même si on peut attacher des noms propres, mais on parle toujours au nom de quelqu'un d'autre, et elle inclut ses lecteurs, sympathisants ou pas. Donc il y a un âge du conte qui a été effacé par l'âge du roman, où là, chacun vit séparément l'expérience esthétique, l'écrivain de son côté, produisant son manuscrit, le lecteur du sien, lisant le bouquin une fois publié, peut-être 10 ans après sa parution. Donc il y a là une séparation. Et j'ai l'impression que se dessine avec l'univers post-exotiste un troisième âge, peut-être l'âge du Nara ou du Chaga, j'en sais trop rien, mais quelque chose qui reconduit, à travers l'écriture pourtant, non pas l'oralité, qui reconduit les conditions de ce qu'était l'univers du conte évoqué par Benjamin. Et c'est là, je crois, que la notion de témoignage m'apparaît importante, c'est-à-dire qu'elle n'est plus simplement cette idée qu'on doit être les porteurs d'une vérité historique, comme tu disais tantôt, c'est-à-dire transmettre ce qu'ont été les faits, notamment en ce qui concerne la Shoah ou le Goulag. Et je pense qu'on a vécu dans les 30 ou 40 dernières années cet âge-là du témoignage au sens juridique du terme. Voilà. Donc j'étais là où j'ai connu quelqu'un qui y était et je peux vous dire que c'est vrai. Bon, même s'il y a la belle citation que Anne a donnée ce matin, là, de vrai à 100%, je pense qu'en réalité, ce qui se passe dans l'univers post-exotiste est un autre ordre de témoignage. Je crois qu'on n'est plus tout à fait dans cette idée qu'on doit... D'où peut-être le malaise qu'on a connu à Moscou, avec nos collègues russes, qui voyaient mal comment on pouvait témoigner des camps de travail, du goulag, etc., sans avoir eu une expérience directe ou même indirecte de la chose. C'est que cet univers a à voir avec un autre type de transmission que celle de la vérité ou des faits historiques purs. C'est quelque chose, pour ça que j'ai associé ça à l'idée de mission plutôt que de transmission. C'est la respiration, non pas artificielle, j'ai appelé ça surnaturelle pour évoquer un peu la surnarration, les surnarrateurs. C'est cette respiration qu'il doit nous donner pour qu'on puisse continuer. C'est qu'après l'histoire, après la catastrophe, appelons ça comme vous voulez, après le Kurben, après quelque chose qui a été de l'ordre de l'extinction, il faut de nouveau inspirer, passer le souffle. Donc la mission, c'est ça. C'est pas tellement de transporter un message comme Hermès ou Mercure font, c'est plutôt d'incarner d'une certaine manière dans ses poumons. Cette très belle expression là que j'ai citée tantôt d'écrivains, qui parle de l'auteur qui est réduit à sa respiration. Il dit des poumons avec conscience, poumons bavards. C'est ça la définition d'un auteur post-exotiste. Donc vous voyez, c'est un autre type de témoignage que celui auquel on est habitué par la littérature de la Shoah, par exemple.
Simplement, il y a deux personnes qui veulent prendre la parole et il nous reste une petite dizaine de minutes, donc je demande à tout le monde d'être assez bref. Philippe Roussin, qui en devant, quatre.
J'ai beaucoup aimé votre définition de la communauté comme étant ce qui est fondé sur ce qui lui manque. Mais alors j'ai une remarque de néophyte, de béotien en Volodini. Je suis surpris par au fond je ne sais pas s'il faut parler d'oxymoron, mais de rapprochement entre une sorte d'interprétation chrétienne et la question du chamanisme. Alors ça rejoint peut-être indirectement la question qui était posée tout à l'heure, c'est-à-dire que avant, moi, je suis... ça me pose problème quand vous posez une identité entre testimonial et testamentaire. Puisque, au cours des 40 dernières années, effectivement, on a eu d'une part le sens historique et juridique, et puis au fond, il y a eu la réhabilitation du sens religieux à partir du colloque de 72 à Rome, et le texte de Ricoeur, en fait, dit précisément, effectivement, le témoignage, c'est religieux, c'est beaucoup plus important que la dimension juridique et historique. Donc voilà, c'est une remarque.
Pardon ? Oui, trois questions. Oui, mais la question est large.
La question est très large.
c'est vrai, j'ai peut-être été un des premiers parmi les commentateurs et interprètes de l'œuvre d'Antoine à évoquer un certain héritage religieux qui vient du christianisme, effectivement. J'ai eu l'occasion d'écrire Johannes Infernus, notamment, et on a l'habitude plutôt d'évoquer le bouddhisme ou le chamanisme. Mais je pense que effectivement, il y a ça aussi dans l'horizon d'inspiration, dans les sources d'inspiration de l'œuvre de Dignan. Mais elle n'est pas du tout exclusive, bien sûr. Hein. J'évoque ces notions parce que l'idée de mission, elle est explicite dans l'œuvre d'Antoine. Les personnages partent en mission avec les moines soldats. Ce sont des moines guerriers qui partent en mission, littéralement, pour exorciser, pour tuer, etc. Donc il y a beaucoup de tueurs à gages, beaucoup de gens comme ça. Donc il y a cette idée, mais elle est portée par autre chose que des intérêts monétaires, idéologiques, politiques, par quelque chose qui est de l'ordre du sacré au sens primitif du terme, hein, au sens un peu de Roger Bastide dans le sacré sauvage. Mais ce n'est pas un sacré religieux, c'est un sacré pré-religieux. Et il me semble que là, on avait intérêt à traverser différents ordres de croyances, pas seulement le bouddhisme, pas seulement le chamanisme, mais aussi, d'une certaine manière, le christianisme. On me demande de vous répondre brièvement. Je sais qu'il y avait plusieurs éléments, mais
c'est difficile.
Sur la question du testamentaire et du testimonial, ça, il y aurait beaucoup à dire, bien sûr. Et je pense que la notion de testament n'est pas réductible non plus à son acception religieuse. Hein. On fait tous des testaments pour léguer à nos héritiers. Donc c'est une notion aussi bêtement juridique, mais une notion, je dirais, fondamentalement sociale et politique. Si la question de la transmission ne se réduit plus uniquement en l'idée de faire passer la vérité d'une génération à l'autre, mais à quelque chose comme le don du souffle, ce que j'ai appelé comme ça, là on voit que ça va beaucoup plus loin que la notion, disons, d'un testament qu'on rédige à la veille de sa mort, et plus loin sans doute aussi que le testament au sens de l'alliance de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est quelque chose de beaucoup plus vital. Mais je n'ai pas le temps, je pense, de répondre à cette question.
Monsieur, avait demandé la parole.
Oui, salut. En fait, j'ai bien entendu tout ce qui est dit sur les capacités de l'œuvre littéraire à déstabiliser les paradigmes de la critique littéraire. Mais votre dernière remarque sur l'impact de la littérature sur le monde quotidien a attiré plutôt vers la critique du langage ordinaire. Et on sait que la communauté a aussi une fonction dans le langage ordinaire, dans le cas du québécois. Il y a une richesse et une subtilité de la notion de communauté qui fait que de tout temps, de tout type de communauté, on peut dire qu'il y a une tentative d'articulation entre une logique du même et une logique de l'autre. Que toutes ces communautés, quelle que soit leur nature, ethnique, civique ou autre, cherchent à être avec aussi ce qui est contre, d'une certaine manière. Et donc, ce qui m'intéresserait plus particulièrement, c'est peut-être d'expliquer ce que vous entendez plus précisément par rapport à cette notion-là, en prenant un cas limite qui serait celui de la frontière. Quels enseignements l'œuvre de Bolodine tirait de cette notion de frontière?
Oui, alors je vais commencer par le premier élément de votre commentaire, qui était l'évocation finalement de la pragmatique. Hein. Quand dire, c'est faire. Hein. C'est le titre du livre d'Austin. Et je pense qu'effectivement, dans la littérature post-helvétique, on n'a pas affaire uniquement à des assertions, et pas uniquement non plus à des négations, mais à des injonctions. C'est un appel à agir, d'une certaine manière. Hein, et... Donc c'est du performatif, hein, comme on disait autrefois, en théorie de l'énonciation. Ce que fait Antoine, c'est plus de l'ordre de la promesse ou que du simple récit. Hein. Il y a un engagement donc, qui fait que le dire devient un faire. Alors c'est pourquoi la frontière, le mur, comme je l'ai appelé, tombe entre le réel et la fiction. Et c'est la raison pour laquelle on peut attribuer une sorte de pouvoir chamanique à cette œuvre-là. Hein, continue la magie dont le narrateur d'écrivain parlait, c'est un peu ça. Ça va au-delà de la simple représentation verbale. Ça passe, d'une certaine manière, à l'acte. Hein, ça passe au réel. Et en ce sens, je pense qu'effectivement, l'œuvre des écrivains post-exotistes, puisqu'ils sont nombreux maintenant, joue beaucoup sur la conception géopolitique que nous nous faisons de la frontière. Hein, on sait que les ethnies sont mélangées, les langues aussi, même si tout est écrit en français, on sait qu'ils parlent plusieurs langues, et parfois même ça transparaît dans certaines citations. Ils viennent de différents continents, seulement les patronymes, et même les prénoms, hein, relèvent de plusieurs aires linguistiques différentes, parfois espagnoles, parfois chinoises, parfois sibériennes, etc. Bon, donc il y a un tel mélange là d'éléments culturels qui, pour nous, hein, lecteurs, sympathisants ou pas, appartiennent à des aires géopolitiques parfois opposées, hein, que ce mélange finalement finit par troubler notre propre conscience des frontières, notre propre représentation de ce qu'est une frontière. Et dans ce sens-là, c'est une œuvre qui agit sur notre contexte sociopolitique, hein, directement. Et je suis assez persuadé que le succès, enfin, comment dire, la fortune, comme on disait autrefois, de l'œuvre d'Antoine au Québec et au Canada en général, est un peu liée à ce contexte-là. Hein, c'est le pari que je fais. Je pense que c'est une œuvre qui parle de cette idée que les frontières ne peuvent plus vraiment exister. Si vous connaissez Montréal un peu, vous avez connu ce brassage, hein, de langues, de religions et de cultures. Maintenant, dans tous les quartiers, avant, c'était un peu départagé en zones urbaines bien démarquées. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, c'est une ville, entre guillemets, post-exotiste, où on peut trouver tous les noms, toutes les consonances de noms qu'on retrouve sous la plume d'Antoine, on peut les retrouver à Montréal. Donc, il y a là un lieu vraiment de mixité, d'hybridité culturelle, telle que cette œuvre parle au quotidien, hein, des Canadiens, des Québécois, des Montréalais. Et je ne peux pas le prouver, mais je pense qu'il y a, des résonances de cet ordre-là.
Ouais, mais merci pour ce passionnant dialogue. Et à table, comme on dit.